Les interviews du SEL, le service d'entraide et de liaison, selfrance.org.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle des actualités du SEL, aujourd'hui avec Daniel Hillion, directeur des études. Bonjour Daniel.
Bonjour David, bonjour à tous.
Alors, pourquoi Daniel ? Tout simplement parce que nous sommes en train de rentrer dans cette période de la journée du SEL, cette journée qui est mise en œuvre dans un grand nombre d'églises en France autour d'une thématique en lien avec la pauvreté et la justice. Et cette année, on se pose la question de la pratique de la justice. C'est quoi la pratique de la justice ? Comment pratiquons-nous la justice, Daniel ?
Vaste question. Alors c'est vrai que l'année dernière, le SEL avait essayé de donner quelques indications sur ce que c'est que la justice d'un point de vue biblique. Et nous avions vu, et c'est là-dessus qu'on continue cette année, que pour la Bible, la justice, ça se pratique. Et j'ai presque envie de dire, c'est d'abord quelque chose qui relève de la pratique, en tout cas quand on pense aux questions de pauvreté. Et si je le disais de façon un peu provocante, je dirais que par rapport à la pauvreté, la justice, c'est d'abord quelque chose qui se pratique, pas d'abord quelque chose qui s'établit. Notre vocation devant Dieu, ce n'est pas d'établir une justice parfaite dans le monde tel qu'il est actuellement, mais c'est plutôt de pratiquer la justice, c'est-à-dire au fond d'obéir aux commandements de Dieu. Et par rapport à la pauvreté, puisque c'est notre sujet au SEL, ça peut prendre plusieurs directions. Je soulignerai d'abord la dimension du partage. Partager son pain avec celui qui a faim, c'est une question de justice, parce que Dieu nous a liés les uns aux autres par un lien d'humanité, et quand je me soucie des besoins de l'autre, eh bien, je ne fais que ce qui est attendu de moi et ce qui est normal, puisque nous sommes réellement liés l'un à l'autre. La justice, ça va aussi avec le fait de poser des limites aux droits de chacun. On ne pratique pas la justice quand on considère que tout doit être pour moi, je peux tout garder et je peux continuellement croître même si cela me fait pousser l'autre tout le temps.
Si je t'entends bien, en fin de compte, pratiquer la justice, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Mais on est tous des hommes limités. Donc la réalité, c'est que si on essaie de le faire, on va tous être dans l'échec. Comment est-ce qu'on fait pour pratiquer la justice en satisfaisant Dieu et sans être dans l'échec de notre pratique?
Alors cette question de l'échec, elle est difficile. Elle est difficile parce que ça commence par un moment de lucidité qui fait un peu mal. Je crois que quand nous voulons pratiquer la justice, nous devons accepter ce temps dans lequel nous reconnaissons que nous n'y arrivons pas, que nous n'y sommes pas arrivés, et que si on met la barre aussi haut que la Bible, eh bien, on n'est pas à la hauteur. Et c'est vrai que face à ce « je ne suis pas à la hauteur », il y a parfois la tentation de stratégie de contournement. Parfois, la première stratégie de contournement, c'est de me dire « bon, et si on baissait un peu la barre ?» Vous connaissez l'histoire dans les évangiles où un homme vient demander à Jésus « qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus l'amène à dire qu'il faut qu'il aime son prochain comme lui-même. Et alors là, le texte nous dit, voulant se justifier, il demanda « Et qui est mon prochain ?» Et cette question voulait dire, bon, qui est-ce que j'ai le droit d'exclure de la liste? Qui est-ce que j'ai le droit de ne pas considérer comme mon prochain? Parce qu'il se rendait compte que peut-être l'exigence allait être trop élevée pour lui. Une autre stratégie de contournement, ça consiste à accuser les autres. Ça consiste à regarder les nombreuses injustices qui se commettent dans le monde et à dire « c'est la faute d'eux ». Et alors là, on a toutes les possibilités. C'est la faute des riches, c'est la faute de l'État, c'est la faute des autres, c'est la faute des pauvres eux-mêmes. Certains vont dire que c'est la faute de Dieu. Et puis peut-être, parfois, la stratégie de contournement la plus simple, c'est de dire, au fond, je préfère ne pas y penser. Et on se le dit peut-être même pas, mais en fait, c'est comme ça qu'on agit. Mais la Bible nous pousse à confesser. C'est-à-dire à dire comme Dieu, oui, je n'y suis pas arrivé.
Alors, on a vu les stratégies de contournement, merci. On va essayer de ne pas les prendre, s'il te plaît. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se mettre en marche? C'est quoi le moteur de notre pratique de la justice?
Le moteur de notre pratique de la justice, c'est que Dieu nous offre sa grâce. Le moteur de notre pratique de la justice, c'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde et que lui a pratiqué la justice et que lui est mort pour payer le prix de l'injustice. Et de manière paradoxale, c'est quand nous sommes prêts à recevoir la justice comme un cadeau que Dieu nous fait, ou pour utiliser une image biblique, comme un vêtement dont Dieu nous recouvre, quand finalement nous recevons une justice autre qui n'est pas celle que nous avons produite nous-mêmes, qui ne procède pas de notre propre pratique, à partir de ce moment où nous avons cette justice cadeau, nous pouvons nous mettre en marche. Et je sais que pour certaines personnes, c'est contre-intuitif, parce que certains vont se dire « Ah ben si c'est un cadeau, si c'est gratuit, j'ai plus rien à faire. » Mais au contraire, je crois que c'est lorsque nous acceptons et que nous recevons pour nous-mêmes l'œuvre du Christ, lorsque nous sommes en mesure de dire « Il a été juste à ma place », que nous pouvons commencer à le suivre et à pratiquer nous-mêmes authentiquement, pas encore parfaitement, mais authentiquement quand même, la justice, notamment envers les pauvres.
Donc la justice à t'écouter est ancrée dans notre identité protestante puisqu'elle est nourrie par la grâce.
Tout à fait. Et j'aurais envie de dire que nous ne nous rendons pas suffisamment compte, puisqu'on parle de l'identité protestante. L'identité protestante, elle est marquée par la redécouverte par Martin Luther du message de la justification par la foi. Et l'apôtre Paul, dans son épître à Tite, après avoir marqué ce message de la justification gratuite, conclut en disant « Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus afin que les hommes s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes ». En insistant sur la justification gratuite, le résultat, c'est qu'on peut avoir des chrétiens qui se lèvent et qui agissent, qui font le bien, qui pratiquent la justice, qui manifestent de la compassion, qui marchent humblement avec leur Dieu.
La grâce comme moteur de notre pratique de la justice. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques balises pour pouvoir mieux identifier ce chemin que nous sommes censés prendre ?
Là, on revient au monde tel qu'il est. Et dans le monde tel qu'il est, pratiquer la justice, c'est quelque chose qui est difficile à cause de nos imperfections, mais c'est aussi quelque chose qui est difficile à cause de l'imperfection du monde tel qu'il est. Si nous voulons vraiment faire le bien, et bon, celle, notre préoccupation première, c'est les personnes qui vivent dans la pauvreté. Nous devons apprendre à considérer le monde tel qu'il est. Et considérer le monde tel qu'il est, ça veut dire considérer qu'il y a des choses qui sont tordues et qu'on ne pourra pas redresser. Considérer qu'il y a des situations qui nous mettent dans des zones grises, dans lesquelles il faut accepter de faire des compromis, faire la différence justement entre un compromis qui est prendre la réalité telle qu'elle est et une compromission qui est se rendre complice de la réalité telle qu'elle est. C'est prendre la réalité dans toute sa complexité, c'est considérer qu'on ne peut pas transformer le monde en un paradis et pourtant ne pas croiser les bras en se disant « j'ai plus qu'à attendre que Dieu agisse, que le Christ revienne et il y a rien à faire dans le présent ». C'est au contraire se dire qu'il y a un chemin fait de petits pas qui demandent parfois un grand courage. Il faut pas, les petits pas, c'est pas la médiocrité, c'est plutôt la capacité à voir ce que j'ai dans la main et à courageusement et énergiquement le mettre en œuvre, et à se dire qu'il peut y avoir une personne qui vit dans la pauvreté qui va en profiter, ou deux, ou trois, ou dix, ou peut-être un petit peu plus, et que ça en vaut vraiment la peine, et que ce que je sème, Dieu peut en faire ressortir quelque chose de beau. Plus encore, Dieu en fera ressortir quelque chose de beau. Peut-être tout de suite, peut-être un peu plus tard, peut-être, comme dit Jésus, le jour où les justes ressusciteront, mais rien de ce que nous faisons pour le bien et la pratique de la justice ne sera perdu.
Alors là, on retrouve encore une des grandes tensions énoncées par le christianisme, c'est la question du déjà et du pas encore.
Oui, le christianisme, c'est que en Jésus, le royaume de Dieu est venu. Parce que Jésus est lui-même le royaume de Dieu en personne. Il est venu instaurer ce règne de justice, de joie, de paix, et c'est déjà venu. Et en même temps, il n'est pas encore pleinement instauré. Il y a encore quelque chose dans la venue de ce royaume de Dieu qui est pour le futur. Cette grande promesse de la résurrection, Elle est pour le dernier jour. Et la résurrection, c'est l'avenir de notre corps. Et avec l'avenir de notre corps, il y a tout ce qui concerne l'avenir de la création tout entière, tout ce qui concerne l'ordre extérieur du monde. Et tout cela, c'est pas encore. Aujourd'hui, le monde est encore, pour parler comme l'apôtre Paul, soumis à la vanité. Et ça veut dire que c'est dur.
Cette tension du déjà et pas encore peut aussi complètement nous désactiver. Pourquoi aujourd'hui agir dans ce monde et essayer de réduire l'injustice, d'apporter une justice animée par la grâce, alors que, in fine, le royaume de Dieu, il est devant nous ou il est là ?
À cette question, j'aurais envie de répondre avec les réflexions d'un pasteur baptiste qui s'appelle Thomas Poète et qui m'a un peu mis sur la voie en insistant sur le fait que il y a dans la Bible une éthique du signe, c'est-à-dire que nous agissons aujourd'hui d'une manière qui fait signe vers ce qui n'est pas encore. J'agis dans le monde aujourd'hui pour faire signe du monde qui vient. Je pose un acte de justice dans un monde injuste parce que j'espère dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Ce qui fait que tout cela n'est pas une simple vue de l'esprit, c'est que ce n'est pas seulement futur, mais que Dieu nous a donné aujourd'hui son esprit comme, alors la Bible utilise l'image du gage, des arts, des prémices, qui fait qu'il y a quelque chose de vrai et d'expérimenter dans le présent, qui me donne la force de faire un signe vers le futur. Donc oui, ça en vaut la peine aujourd'hui d'agir dans le présent d'une manière qui montre ce que je crois pour le futur.
Aujourd'hui, se mettre en marche, c'est déjà annoncer ce royaume ?
Oui, aujourd'hui, se mettre en marche, c'est à la fois annoncer le royaume qui vient, annoncer le royaume qui est déjà venu en Jésus. Et puis, si c'est faire signe vers le futur, c'est aussi faire signe vers le passé, c'est-à-dire vers le fondement de notre création en image de Dieu, qui nous rappelle que si le monde est un monde déchu, marqué par le péché, il est aussi un monde créé, et que le péché n'a pas effacé toute la bonté de la création de Dieu, et que comme Jésus devant la foule, il est normal, il est bon, et ça répond à notre être, d'être créé par Dieu, que d'avoir compassion quand nous voyons des personnes créées par Dieu être dans la souffrance ou victimes d'injustice. Et donc, nous pouvons faire signe vers le passé de ce que Dieu a fait par la force que Dieu nous donne dans le présent par son esprit et en faisant signe vers le futur de ces nouveaux cieux, de cette nouvelle terre où la justice habitera quand le Christ reviendra.
En fait, c'est plein d'espérance tout ça.
Il faut que ce soit plein d'espérance, parce que si ce n'est pas plein d'espérance, la perspective de la justice sera remplie soit d'amertume, soit de découragement, mais avec un Dieu qui est le Dieu de la justice, avec un Sauveur qui est appelé le Juste, et avec l'Esprit Saint qui est l'Esprit de ce royaume qui est, comme dit l'apôtre Paul, justice, paix et joie par le Saint-Esprit, alors il y a de quoi avoir de l'espérance pour notre pratique de la justice, en particulier quand nous voulons mener une action chrétienne dans un monde en détresse face à la pauvreté.
Un grand merci Daniel, c'était très clair, très motivant. Où est-ce qu'on peut retrouver les ressources de la journée du sel ?
Les ressources de la journée du sel, on peut les retrouver en s'inscrivant sur le site internet du sel, www.selfrance.org. www.selfrance.org. Il y a une page où on laisse son adresse email et tout est accessible gratuitement. Donc des ressources pour réfléchir soi-même tout seul ou pour organiser quelque chose dans un culte, dans un groupe d'enfants, dans un groupe de jeunes, dans un groupe de maison. Il y a de quoi faire pour se demander comment pratiquer la justice.
Merci beaucoup Daniel. On se retrouve le mois prochain pour les actualités du sel.